Première épître de Jean, chapitre 5.
Lecture de la parole. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu, et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit et l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est ici le témoignage de Dieu qu'il a rendu au sujet de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage au-dedans de lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne soit pas à la mort, il demandera pour lui, et il lui donnera la vie, savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Il y a un péché à la mort. Pour ce péché-là, je ne dis pas qu'il demande. Toute iniquité est péché, et il y a tel péché qui n'est pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier gît dans le méchant. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Enfants, gardez-vous des idoles.
Lecture de l'étude. Lorsque nous sommes placés en face de nos responsabilités envers nos frères, nous sommes toujours enclins, si la chair domine en nous, à nous abriter derrière la question de Caïn : suis-je le gardien de mon frère ? Nous ne sommes peut-être pas exactement le gardien de notre frère, mais nous devons certainement être son aide dans un esprit d'amour. Nous sommes également enclins à poser une question semblable à celle du docteur de la loi dans le récit de Luc 10. Voulant se justifier lui-même, il demande « Et qui est mon prochain ?» Nous pourrions demander « Et qui est mon frère ?» La réponse à cette question nous est donnée d'une manière très directe au début du chapitre 5. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Verset 1er. Ainsi, nous devons reconnaître, comme notre frère, toute personne qui croit en Jésus comme étant le Christ, quel qu'il soit. Aucune sélection ne peut être admise. Beaucoup de croyants, de ceux qui sont nés de Dieu, peuvent ne pas nous attirer du tout sur le plan humain. Par notre éducation ou nos habitudes, nous pouvons n'avoir que très peu de choses en commun avec eux. De plus, il se peut que, dans les choses de Dieu, il y ait bien des points sur lesquels nous ne voyons pas de la même manière. Eh bien, c'est justement avec de telles personnes que nous sommes mis à l'épreuve. Avons-nous le droit de nous désintéresser complètement d'eux et de passer de l'autre côté? Certainement pas. Si j'aime seulement le frère qui est gentil et agréable avec moi, je fais ce que n'importe qui pourrait faire. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Matthieu 5, verset 46. Mais si j'aime mon frère parce qu'il est engendré de Dieu, bien qu'il ne soit pas gentil et agréable avec moi, je manifeste l'amour qui est la nature de Dieu lui-même. Rien n'est plus grand que cela. Le verset 2 semble résumer cela en nous disant que nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous marchons dans l'obéissance. L'amour de Dieu nous amène à aimer ses enfants, et le commandement de Dieu nous enjoint de le faire. Alors, sans aucun doute, lorsque nous aimons effectivement Dieu et gardons ses commandements, nous aimons effectivement ses enfants. L'amour et l'obéissance vont ensemble, comme nous l'avons vu dans cet épître. Ainsi, il est impossible d'aimer Dieu sans lui être obéissant. Peut-être avons-nous déjà vu un enfant serrer sa maman dans ses bras, l'embrasser et lui dire « Oh maman, je t'aime tellement !» Et pourtant, 5 minutes plus tard, quand la maman lui demande quelque chose qui ne s'accorde pas tout à fait avec ses désirs, c'est la crise de rage et la désobéissance. Celui qui assiste à cette scène saura apprécier l'amour qui a été si hautement clamé quelques minutes auparavant. Il ne vaut pas grand-chose. Alors, souvenons-nous que c'est ici l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements, verset 3. L'enfant peut avoir trouvé quelque peu pénible la demande de sa mère, car elle le sortait de son jeu. Si nous nous égarons dans des chemins de désobéissance, nous n'avons même pas cette excuse, puisqu'il est écrit « Ses commandements ne sont pas pénibles », verset 3. Ce que Dieu enjoint est en parfait accord avec l'amour qui est la nature divine. Et nous possédons cette nature si nous sommes réellement engendrés de Dieu. Ce serait effectivement pénible s'il nous était commandé de faire ce qui est totalement opposé à notre nature, comme ce le serait pour un chien de manger du foin ou pour un cheval de manger de la viande. La loi de Moïse avait amené des fardeaux pesants et difficiles à porter, car elle avait été donnée à des hommes dans la chair. Nous avons reçu des commandements, mais nous avons également reçu une nouvelle nature qui trouve son plaisir dans les choses commandées. Voilà ce qui fait toute la différence. Paul confirme les paroles de Jean lorsqu'il dit « Dieu opère en vous et le vouloir et le faire selon son bon plaisir » Philippiens 2, verset 13. Jacques les confirme également quand il parle de la loi parfaite, celle de la liberté. Jacques 1, verset 25.
Mais celui qui aura regardé de près dans la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera bienheureux dans son faire.
C'est avec joie que nous reconnaissons chaque vrai croyant comme notre frère, puisqu'il est engendré de Dieu. Au verset 4, nous découvrons une autre caractéristique du croyant. Il est victorieux du monde. Cette victoire sur le monde est liée à notre foi. La foi, ici, n'est pas simplement notre faculté spirituelle qui discerne et reçoit la vérité, mais c'est aussi la vérité que nous recevons, la foi chrétienne. Or, l'essence même de cette foi, c'est que Jésus est le Fils de Dieu, verset 5. Maintenant, voyez où nous en sommes arrivés. Nous avons eu devant nous la sphère chrétienne, la famille de Dieu, composée de ceux qui ont été engendrés de lui. Or Dieu est amour. Par conséquent, ceux qu'il a engendrés ont sa nature et demeurent dans son amour. Comme ils demeurent en lui, et lui demeure en eux, ils s'aiment les uns les autres et gardent ses commandements. Mais de plus, ils sont victorieux du monde au lieu d'être vaincus par lui. Bien qu'elle traverse le monde, la famille de Dieu est séparée du monde, et elle est plus forte que lui. Le secret de la victoire a deux aspects. L'un, c'est l'œuvre que Dieu opère dans les croyants. L'autre, la foi en Jésus, comme le Fils de Dieu, le divin objet qui nous est présenté pour être reçu par la foi. Au verset 14 du chapitre 2, nous avons appris que la victoire sur le méchant est possible pour ceux qui sont nés de Dieu. Au verset 9 du chapitre 3, nous avons vu que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Maintenant, nous voyons que celui qui est né de Dieu est victorieux du monde. Nous constatons donc qu'être né de Dieu assure la victoire sur le diable, la chair et le monde. Mais un autre élément est à considérer, non ce qui est accompli en nous, mais ce qui est placé devant nous dans l'Évangile. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas simplement le plus grand de tous les prophètes. Celui qui doit introduire sur la terre un ordre de choses que les autres prophètes ont annoncé. Il est le Fils qui est dans le sein du Père, celui qui a fait connaître des choses célestes, se trouvant bien au-delà et bien au-dessus de ce monde. Lorsque la foi s'approprie cela, le monde perd son attrait et peut être mis de côté comme une chose sans valeur. Celui qui est né de Dieu et qui vit dans la foi en Jésus comme le Fils de Dieu ne peut pas être captif du monde. Il en est victorieux. Bien sûr, dans tout ceci, les choses sont encore placées devant nous d'une manière abstraite. Ainsi, nous les voyons selon leur nature fondamentale, en éliminant de nos pensées, pour un moment, d'autres considérations qui sont liées à notre état sur la terre et qui introduiraient des réserves. Il est très utile de voir les choses de cette manière abstraite, car cela nous instruit quant à leur véritable nature et nous amène à les voir comme Dieu les voit. De plus, nous les voyons telles qu'elles seront manifestées dans le jour futur. Dieu aura terminé son travail en ce qui nous concerne, car il l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 6.
Étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ.
S'il s'agit de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, combien il est loin de ce que nous avons considéré, combien peu nous demeurons dans l'amour et par conséquent en Dieu et Dieu en nous. Soyons honnêtes et reconnaissons-le. Mais en même temps, attachons-nous fermement aux normes divines et jugeons-nous d'après elles. Cela contribuera à notre santé spirituelle et produira du fruit. Le fait reçu par la foi que Jésus est le Fils de Dieu est au cœur même de tout. Jésus-Christ, ce personnage historique, a vécu dans le monde. Personne ne peut raisonnablement nier ce fait. Mais qui est-il? Voilà la question. La substance de notre foi, de la foi chrétienne, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Ce point étant réglé, une autre question se pose. Comment, de quelle manière le Christ est-il venu? La réponse se trouve au verset 6. Il est venu par l'eau et par le sang. Voici de nouveau une de ces brèves affirmations, telles que l'on en trouve si fréquemment dans les écrits de Jean, très simples quant à leur forme, mais plutôt obscures quant à leur signification, et pourtant offrant une riche moisson d'instructions à ceux qui les méditent dans un bon esprit. Ce passage se rapporte clairement à ce qui est arrivé lorsqu'un soldat romain a percé le côté de Christ avec une lance, après sa mort, selon le récit de Jean. Aucun des autres évangélistes ne rapporte cet événement, mais Jean lui donne une importance toute spéciale en nous disant « Celui qui l'a vu rend témoignage, et son témoignage est véritable, et lui sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. » Jean 19, verset 35. Jean a écrit son évangile afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Chapitre 20, verset 31.
Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom.
Ainsi, de façon évidente, cet épisode du sang et de l'eau témoigne du fait que Jésus est à la fois Christ et le Fils. Ces deux points sont devant nous dans notre passage. Premièrement, l'eau et le sang témoignent de sa véritable humanité. Le Fils de Dieu est venu parmi nous dans la chair et le sang, un homme réel et véritable, non pas un fantôme ni une apparition. Ce fait n'a jamais été plus clairement établi qu'au moment où, de son côté percé, il est sorti du sang et de l'eau. L'eau et le sang ont chacun leur signification propre. L'eau évoque la purification et le sang l'expiation. Nous pouvons donc dire que la venue de Christ était caractérisée par la purification et l'expiation. Ces deux choses étaient des nécessités absolues pour que les hommes puissent être bénis. Ils devaient être purifiés de la corruption morale dans laquelle ils étaient, et leurs péchés devaient être expiés pour qu'ils puissent être amenés à Dieu. L'un de ces éléments règle la question morale, l'autre la question judiciaire. Les deux sont également nécessaires. Ni une restauration morale sans acquittement judiciaire, ni un acquittement judiciaire sans une restauration morale n'aurait mis notre situation en ordre. Voilà donc un autre témoignage au fait que Jésus est le Fils de Dieu. Il était bien un vrai homme, mais aucun homme ordinaire n'aurait pu venir dans la puissance de la purification et de l'expiation. Pour cela, il devait être le Fils, celui qui était la parole de la vie. Dans l'Évangile, il est fait mention du sang et de l'eau, alors que l'Épître parle de l'eau et du sang. L'Évangile nous donne ce que nous pourrions appeler l'ordre historique. Tout d'abord notre besoin de pardon, ensuite notre besoin de purification. Mais dans l'Épître, le point important est ce qui est opéré en nous comme étant né de Dieu. Or la caractéristique essentielle de notre nouvelle vie, c'est qu'elle est sainte. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Chapitre 3, verset 9. Elle est sainte dans sa nature, de sorte qu'en la recevant, nous avons été les objets d'une merveilleuse purification. De manière très appropriée, l'eau vient donc en premier. Elle est liée dans nos pensées avec la mort de Christ, car nous ne devons jamais séparer dans nos esprits l'œuvre accomplie en nous de l'œuvre accomplie pour nous. Mais bien que l'eau soit mentionnée en premier, il est spécialement souligné au verset 6 que la venue de Christ était non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Sa venue dans le monde n'était pas seulement pour une purification morale, mais aussi pour l'expiation. Ceci est particulièrement important pour nous aujourd'hui, car l'une des idées favorites de l'incrédulité religieuse moderne est que nous pouvons mettre de côté toute pensée d'expiation, tout en retenant que Christ est venu comme un réformateur afin de nous laisser un merveilleux exemple et de purifier les mœurs des hommes par la force de son exemple. De fait, ils soutiennent qu'il n'est venu que dans la puissance de l'eau. Sa mort, comme exemple suprême de l'abnégation héroïque, doit servir à exorciser l'esprit d'égoïsme de nos cœurs. Mais sa mort, comme expiation du péché par le sang, ils ne la veulent absolument pas. Ceux qui renient la valeur du sang tout en acceptant celle de l'eau auront finalement affaire avec l'Esprit de Dieu dont ils rejettent le témoignage. L'Esprit qui rend témoignage est la vérité. Par conséquent, son témoignage est la vérité. Ces hommes seront manifestés comme étant menteurs dans le jour qui doit venir, si ce n'est avant. Dans l'Évangile, où le fait historique est raconté, Jean se contente de prendre lui-même la place de témoin, comme nous l'avons vu. Mais à l'époque où il écrit l'Épître, des hommes s'étaient levés, remettant en question toute la vérité. Cela conduit Jean à s'effacer lui-même, canal humain du témoignage, devant l'Esprit qui est le témoin divin et primordial. Et Jean déclare que celui qui est la vérité a parlé. Son témoignage établit qui est venu et ce que sa venue signifie réellement. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit et l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord pour un même témoignage, versets 7 et 8. L'Esprit de Dieu est le témoin vivant actif. L'eau et le sang sont les témoins silencieux, mais les trois témoignages convergent. Le point de convergence se trouve dans les versets 11 et 12. Les versets 9 et 10 sont une parenthèse. Le témoignage, nous devons bien le réaliser, qu'il soit rendu par l'Esprit ou par l'eau et le sang, est le témoignage de Dieu, verset 9. Il doit être traité comme tel. Il est évident que nous acceptons le témoignage des hommes. Nous sommes contraints de le faire pratiquement chaque jour. Nous l'acceptons, bien qu'il soit souvent entaché par l'imprécision, même lorsqu'il n'y a pas d'intention de tromper. Le témoignage de Dieu est incomparablement plus grand, que ce soit dans son thème ou dans son caractère. Le Fils en est le thème, et la vérité absolue en est le caractère. Lorsque le Fils était sur la terre, il rendait témoignage à Dieu. Maintenant, l'Esprit est sur la terre, et le témoignage de Dieu est rendu au Fils. N'est-ce pas remarquable? De plus, celui qui croit au Fils de Dieu maintenant a le témoignage au-dedans de lui-même, puisque l'Esprit, qui est le témoin, nous a été donné et habite en nous. Nous commençons bien sûr en croyant le témoignage qui nous est rendu au sujet du Fils de Dieu. Et ensuite, par l'Esprit qu'il nous a donné, nous avons le témoignage en nous-mêmes. Aucun incrédule ne peut avoir ce témoignage au-dedans de lui-même, car ne croyant pas le témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils, il l'a fait menteur. Quelle chose terrible! Le témoignage de Dieu est au sujet de son Fils. Il consiste en particulier en ceci, Dieu nous a donné la vie éternelle, à nous qui croyons, et cette vie est dans son Fils, verset 11. L'Esprit de Dieu en est le témoin vivant et permanent. Il est appelé ailleurs, par l'apôtre Paul, l'Esprit de vie dans le Christ Jésus. À ceci aussi, l'eau et le sang rendent témoignage, mais d'une manière plutôt négative. Lorsque nous voyons la vie du Fils de Dieu livrée à la mort en faveur de ceux dont les vies étaient perdues, nous comprenons que cela signifie qu'il n'y avait aucune vie en eux. L'apôtre Paul confirme aussi cela en disant que, si un est mort pour tous, tous donc sont morts, c'est-à-dire tous étaient morts, et à cause de cela, le Fils de Dieu a livré sa vie à la mort. L'eau et le sang attestent qu'il n'y a pas de vie dans l'homme, dans le premier Adam et sa race, mais uniquement dans celui qui a donné sa vie et qui l'a reprise par la résurrection. Ainsi, le témoignage est que nous avons la vie éternelle. Elle nous a été donnée de Dieu et elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, verset 12. La conclusion est parfaitement claire. Personne ne peut avoir le Fils s'il nie le Fils, comme le faisaient les docteurs antichrétiens. Au chapitre 2, nous avons vu que ceux qui nient le Fils ne peuvent avoir le Père, verset 23. Ici, nous voyons qu'ils ne peuvent avoir le Fils et par conséquent la vie. Le verset 13 nous donne la signification du mot « avoir » dans ce contexte. On aurait pu s'attendre à ce que Jean dise ici « Je vous ai écrit ces choses à vous qui avez le Fils ». Au lieu de cela, il indique ce qui est impliqué dans l'expression « avoir le Fils ». C'est croire au nom du Fils de Dieu. C'est celui qui croit au Fils de Dieu qui a le Fils et qui a la vie éternelle. Jean a été conduit à écrire ces choses afin que nous qui croyons, nous le sachions. En écrivant ces choses, Jean avait certainement en vue d'aider et de rassurer les croyants simples qui pouvaient avoir été effrayés et ébranlés par les prétentions des antichrists. Ils arrivaient avec leur philosophie savante et leur nouvelle lumière. Et ils considéraient les croyants qui attachaient simplement leur foi à ce qui était dès le commencement comme bien éloignés du haut niveau de vie intellectuelle dont ils jouissaient. Pourtant, c'était bien celui qui croyait simplement au nom du Fils de Dieu qui avait le Fils et qui avait la vie. et cette vie était la vie éternelle, la seule vie qui compte. Aujourd'hui, ce verset reste avec toutes ses heureuses applications pour les croyants inquiets. Par tout ce qu'il a écrit, l'apôtre Jean nous a fait savoir quels sont les signes caractéristiques de la vie. Et nous pouvons savoir que nous avons la vie, non seulement à cause de ce que Dieu a dit, mais également parce que les signes de la vie sont manifestés. La caractéristique principale de la vie, ce ne sont pas les sentiments heureux auxquels certaines personnes pensent tellement, mais l'amour et la justice. Le verset 14 semble introduire un changement de pensée complet et abrupt. L'apôtre reprend le fil d'une pensée qu'il avait suivie durant quelques versets du chapitre 3 pour l'abandonner au verset 22. Si nous comparons les deux passages, nous remarquerons que le changement n'est pas aussi radical qu'il paraît. Dans le premier, l'apôtre déclare que si nous aimons en action et en vérité, nos cœurs auront de l'assurance devant Dieu et par conséquent de la hardiesse dans la prière. Ici, la suite de pensée est similaire. Comme résultat de ce que Jean nous a écrit, nous avons l'heureuse connaissance, l'assurance intérieure, que nous avons la vie éternelle. Ainsi, nous avons confiance, ou hardiesse, en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, ce que nous demandons sera certainement accordé. Parce que nous avons la vie, sa volonté devient notre volonté. Alors nous pouvons demander simplement et joyeusement selon sa volonté. C'est la situation normale pour le croyant, et son résultat est l'exaucement de la prière. Hélas, au lieu de cela, nous réalisons bien souvent la situation anormale parce que nous marchons selon la chair. Le verset 16 suppose que nous ne sommes pas égoïstes dans nos prières, mais préoccupés par ce qui concerne les autres. Nous intercédons pour nos frères. La hardiesse que nous avons devant Dieu s'étend à cela. Elle n'est pas confinée à nos besoins personnels. Mais il est clair aussi que, bien que nous ayons de la hardiesse, il y a certaines choses que nous ne pouvons et ne devons pas demander. Le gouvernement de Dieu envers ses enfants est une chose très réelle, et Dieu ne peut pas y renoncer à notre demande. La mort dont il est parlé ici est la mort du corps, telle que nous la voyons par exemple dans le cas d'Ananias et Saphira. Nous pouvons demander la vie, et sans aucun doute, tout ce qui est moindre que cela, pour celui dont le péché n'est pas à la mort. Et comme toute injustice est péché, nous avons un champ immense ouvert devant nous. Mais si le péché est à la mort, nous nous taisons. Il est possible qu'en écrivant ceci, l'apôtre ait eu à l'esprit un péché précis, un péché lié aux tromperies des antichrists répandues alors. Mais il ne le précise pas. Ainsi, nous sommes laissés devant le principe général. Nous savons que l'hypocrisie et la fausse prétention étaient le péché à la mort dans le cas d'Ananias, et qu'un désordre grossier et un manque de révérence envers la scène du Seigneur étaient le péché à la mort chez les Corinthiens. Dans ce que nous venons de voir au verset 16 et 17, les choses sont décrites dans leur aspect pratique, comme elles existent parmi les croyants, car celui qui pourrait pécher d'un péché à la mort est un frère. Au verset 18, nous revenons à une vue abstraite des choses. Celui qui est né de Dieu ne pèche pas, si nous le considérons selon sa nature essentielle. Nous avons déjà vu cela dans l'Épître. De plus, il est capable de se conserver lui-même, de sorte que le méchant ne le touche pas. Cette dernière remarque soutient un peu la pensée que le péché à la mort que Jean a en vue est lié aux ruses du diable à travers les enseignements des antichrists. Vu d'une manière abstraite, celui qui est né de Dieu est à l'abri du méchant. Vu d'une manière pratique, comme la chair est encore dans le croyant, bien qu'il soit né de Dieu, un frère peut être séduit par le méchant et se placer ainsi sous la discipline de Dieu, celle-ci pouvant aller jusqu'à la mort. Nous arrivons maintenant au dernier mot de l'Épître qui nous la résume d'une manière très remarquable. si nous demeurons dans ce qui était dès le commencement, il y a certaines choses que nous savons. Selon le verset 18, nous savons quelle est la véritable nature de ceux qui sont nés de Dieu. Ensuite, nous savons que, étant de la vraie famille de Dieu, nous sommes de Dieu, et ainsi entièrement différenciés du monde qui gît dans le méchant, verset 19. Avant la venue de Christ, une telle différenciation n'existait pas. La frontière était plutôt tracée entre Israël, une nation qui appartenait à Dieu, et les gentils qui ne lui appartenaient pas, bien que la foi ait certainement toujours pu discerner que tout Israël n'était pas le vrai Israël de Dieu. Maintenant, la frontière est tracée indépendamment de toute considération nationale. La seule question est qui est né de Dieu et qui ne l'est pas, quelle que soit la nation à laquelle il puisse appartenir. La famille de Dieu est complètement et fondamentalement séparée du monde. De plus, nous savons ce qui est à l'origine de tout cela. Le Fils de Dieu est venu, il est arrivé sur la scène et la vie a été manifestée en lui. Ici, nous sommes ramenés au point de départ de l'Épître, mais un fait de plus a été introduit. Au départ, nos pensées devaient être concentrées sur ce qui a été mis en lumière par sa venue. Mais ce qui a été développé ensuite dans l'Épître nous a amenés à ceci. L'un des résultats de sa venue est que nous avons reçu une intelligence afin que nous puissions connaître et apprécier celui qui a été révélé et qu'il reçoive une réponse de notre part. Il est facile de voir que sans cette intelligence, la révélation la plus parfaite nous serait inutile. Grâce à Dieu, nous avons cette intelligence.
L'Épître nous a montré que nous sommes nés de Dieu et qu'il nous a donné de son esprit.
Nous n'aurions jamais pu avoir de cette onction si le Fils de Dieu n'était pas venu. Maintenant, nous connaissons le véritable, car le Père s'est fait connaître dans le Fils. Pourtant, il est dit ensuite que nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Ainsi, le véritable est un terme qui englobe le Fils et le Père, et nous passons presque insensiblement de l'un à l'autre. C'est un témoignage supplémentaire au fait que le Fils et le Père sont un dans leur essence, bien que distincts quant à leur personne. Alors, ayant placé devant nous cette personne glorieuse, son Fils Jésus-Christ, Jean dit très explicitement « Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle ».
Il ne pourrait pas y avoir d'affirmation plus forte de sa divinité.
Ainsi, il est la vie éternelle et, comme nous l'avons vu, il en est la source pour nous. Quel merveilleux résumé de l'Épître que ce court verset. La vie a été manifestée et le véritable s'est fait connaître par la venue du Fils de Dieu. Comme résultat de sa venue, nous avons reçu une intelligence pour être capables d'apprécier et de recevoir ce qui a été mis en lumière. Et alors, non seulement le véritable est révélé, et nous sommes rendus capables de le connaître, mais nous sommes en lui parce que nous sommes en celui qui l'a révélé. Sans cela, nous aurions été, peut-être, seulement des spectateurs émerveillés, sans lien vital avec Dieu. Mais, grâce à Dieu, ce lien vital existe, et celui en qui nous sommes est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Quel contraste dans les derniers mots de l'Épître.
Enfin, gardez-vous des idoles. Ici, le mot « enfant » englobe toute la famille de Dieu. Une idole est tout ce qui usurpe dans nos cœurs la place suprême qui appartient à Dieu seul. Si nous vivons dans la réalité et dans la puissance du verset 20, nous dirons certainement, comme Éphraïm, « Qu'ai-je plus à faire avec les idoles ?»
Osée 14, verset 8.
Si le Fils de Dieu et tout ce qu'il a fait et apporté remplit nos cœurs, les idoles qui autrefois nous attiraient perdront tout leur attrait.